Amalia Rodriguez, Saudades, bien sûr, sur Canal Sud. On continue de parler du Portugal et de l'immigration portugaise dans les années 60-70 avec Paulo Diaz et Victor Pereira. Victor, on parlait à l'instant de ces flux migratoires très importants qu'il y a eu donc, du Portugal vers la France dans ces années-là. On n'a pas trop parlé de la manière dont ces Portugais ont été reçus en France. Et on sait qu'il y a eu, avant qu'avoir le racisme envers les Arabes, envers les Noirs actuellement, il y a eu aussi un racisme contre les Portugais, les Espagnols, les Ritals, voilà, à cette époque-là. Tout le monde en prenait plein la tête. Comment est-ce que vous avez étudié un peu la manière dont étaient reçus les Portugais en France, même s'il y avait besoin de main-d'œuvre à l'époque, comment ça s'est passé?
En fait, les Portugais ont été, surtout à partir de 62 et quand Pompidou arrive à Matignon, très chaudement espérés par les autorités françaises qui désiraient obtenir de plus en plus d'immigrés portugais. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, notamment à Matignon, on disait que la France connaissait d'importants besoins de main-d'œuvre. Et pour construire des routes, pour construire des centres commerciaux, bon, pour participer à cette expansion des Trente Glorieuses. Et donc, et les Portugais étaient appréciés par les patrons qui considéraient que cette main-d'œuvre était docile, qui travaillait beaucoup, qui ne connaissant pas ses droits et n'étant pas habitué à avoir des droits, n'était pas très revendicative. Et donc, il y a eu une volonté d'obtenir plus de Portugais, et ça explique pourquoi en 64, il y a un télégramme du ministère de l'Intérieur qui enjoint tous les préfets à laisser rentrer en France tous les Portugais, même s'ils rentrent irrégulièrement, sans papier et contrevenant aux lois françaises sur l'entrée des étrangers sur les territoires français.
Mais après, au niveau de la population, comment ça se passait?
Oui, et ben en fait, un des arguments qui est avancé par les autorités françaises, qui n'est pas avancé publiquement, mais qu'on retrouve dans les archives, est de dire que les Portugais s'assimilent bien en France, qu'ils s'intègrent bien, et qu'il n'y a pas de racisme contre les Portugais. C'est ce qui est dit, hein, c'est pas ce que je vous dis. Et un des arguments qui est beaucoup utilisé, il y a une sorte de vision qu'ont les élites politiques à l'époque, et notamment Pompidou, qui est de dire que la France, depuis le XIXe siècle, a connu différentes vagues d'immigration qui ont participé à la construction de la cité française. Ça a été d'abord les Belges, une grande population qui a immigré. Beaucoup de Belges sont venus au XIXe siècle, puis ça a été les Suisses, puis ça a été les Italiens, puis ça a été les Espagnols, et c'est encore un peu les Espagnols, et qu'ensuite, le pays qui allait donner des futurs Français, c'était le Portugal. Et donc, on pensait que c'était une sorte de réservoir, c'est comme ça qu'on l'appelait, un réservoir qu'il fallait à tout prix utiliser. Et il y avait une vision complètement édulcorée de l'histoire de l'immigration, qui était de dire, mais les Belges, les Italiens, les Espagnols sont très bien intégrés en France, comme ils étaient proches blancs, européens, catholiques, ils n'ont posé aucun problème. Et donc, il faut les Portugais, eux aussi, ne poseront aucun problème. Ce qui était évidemment faux, parce que notamment les Italiens ont souffert de racisme. Il y a eu des massacres, comme à Aigues-Mortes, à la fin du XIXe siècle. Même les Espagnols ont aussi subi une très forte xénophobie, notamment à la fin de la guerre civile. Ils ont été parqués dans des camps. Et on les a reçus comme des rouges. Les autorités avaient peur d'eux. Mais on avait complètement une vision complètement édulcorée du passé migratoire français. Et un des objectifs qui est dit assez clairement dans ces notes, qui est de dire qu'il faut favoriser l'avenue des Portugais en France pour défavoriser l'avenue d'autres migrants, et notamment des migrations algériennes, dont on ne voulait pas pour différentes raisons, et qu'on voulait empêcher, notamment parce que la France était indépendante depuis 1962. Et on disait que plus de Portugais viendront, moins on aurait d'immigrés algériens ou africains. Et donc, il y avait une sorte de discrimination positive pour les Portugais. Mais ensuite, comme vous le disiez tout à l'heure, ça, c'était le discours des élites politiques et administratives. Mais dans les faits, les Portugais, et comme le montre le film de José Vieira, ont été reçus ils n'ont pas été reçus, en fait. C'est-à-dire que, comme ils sont venus clandestinement très nombreux, il n'y avait rien pour les accueillir. Et donc, beaucoup de Portugais ont vécu dans des bidonvilles, à Champigny, à Massy, c'est le bidonville dans lequel a vécu José Vieira quand il était jeune, dans des logements précaires. Ils ont été très souvent exploités par une partie de leurs patrons parce qu'ils étaient clandestins. Et effectivement, comme vous disiez, ils ont subi parfois des stéréotypes, des brimades, un certain racisme, mais un racisme qui a été moins fort et moins virulent et qui est moins dur que vis-à-vis de populations qui viennent d'Afrique.
Et pas institutionnalisé, quoi.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait au niveau syndical, syndicalement, est-ce qu'il y avait une opposition, c'est-à-dire que on a souvent prêté aux étrangers, notamment aux Portugais, de justement d'être là pour travailler et de ne pas s'opposer et de ne pas militer.
Oui, les syndicats, la CGT, la CFDT avaient essayé de mobiliser cette population pour défendre leurs droits parce qu'ils étaient exploités très souvent. Mais en fait, beaucoup de Portugais avaient extrêmement peur de rejoindre à l'époque des syndicats, de peur que ce soit considéré comme un acte politique et qu'ils aient des problèmes à leur retour ou que leur famille ait des problèmes au Portugal. Et donc, les Portugais ont... en plus, ils sont dans le bâtiment. Le bâtiment, c'est pas un secteur d'activité où, à cause des perpétuels changements, des mouvements, etc., des placements, où les gens syndicalisent beaucoup. Et donc, effectivement, les syndicats voyaient les Portugais comme des victimes d'un régime dictatorial qui ne leur avait pas donné de droit et donc qui avait du mal à se mobiliser. Et même les patrons, quand ils avaient parfois des Portugais qui syndicalisaient, bah, très souvent les viraient, etc. Donc il y avait aussi une politique d'opposition aux quelques cas de Portugais qui étaient syndicalisés.
Et après la chute de la dictature salazariste, est-ce que c'est resté cette histoire-là ou ça a commencé à changer justement?
Effectivement, comme il n'y avait plus cette peur de la dictature, et aussi le fait que la révolution au Portugal est un grand moment de mobilisation politique. C'est-à-dire qu'au Portugal, il y a eu beaucoup de grèves, de manifestations, d'occupations d'usines, d'occupations des terres, et quelques Portugais ont pu se rendre compte que d'une part, ils ne risquaient plus rien, et que même au Portugal, les gens demandaient des droits. Et effectivement, certains Portugais ont rejoint les syndicats et ont participé aux luttes de la classe ouvrière française dans laquelle ils étaient. Mais les Portugais sont rarement les migrants et les travailleurs les plus mobilisés. Ce qui est vrai, c'est que même au niveau des élections, les Portugais peuvent voter aux élections au Portugal. Il y a 4 députés pour les émigrés et les taux de participation sont en règle générale assez bas. Il y a une faible culture civique et syndicales chez les Portugais en comparaison avec d'autres populations, notamment les Espagnols.
Une autre question. Face à tous les enjeux de cette immigration portugaise, comment expliquez-vous le peu de débat qui peut y avoir justement autour de cette immigration portugaise en France? Est-ce que vous diriez que des immigrés portugais qui ont du mal avec leur immigration ou c'est une société française qui a du mal avec cette immigration dans l'ensemble?
Je crois que si effectivement on parle assez peu de l'immigration portugaise, c'est pour un ensemble de raisons qui s'articulent et qui s'additionnent. D'une part, il y a souvent l'idée que les Portugais ne posent pas de problème et que les Portugais sont bien intégrés, c'est ce qu'on répète souvent. Donc je ne vous dis pas le contraire, mais c'est souvent ce qui est dit, mais sans trop de problématisation et sans trop de nuances. Et donc, pourquoi travailler, pourquoi faire un livre sur des gens qui n'ont pas d'histoire? Et pourquoi financer des recherches, notamment au niveau de l'État ou d'enseignement supérieur, sur des populations dont on dit qu'elles ne posent pas de problème? Très souvent, on finance des recherches pour des populations dont on pense qu'elles posent problème. Alors parfois, elles n'en posent pas, mais on pense qu'elles en posent, etc. Donc d'une part, c'est un fait que, comme on dit qu'ils sont bien intégrés, pourquoi travailler sur ces populations? En France, on travaille plutôt sur les populations dont on dit qu'elles ne sont pas bien intégrées. D'une part. D'autre part, les Portugais eux-mêmes, effectivement, et ça on l'a vu hier notamment lors du débat, parfois, on va dire que ils ont un peu vécu dans l'oubli et dans le silence de ces premières années, en fait, des années difficiles. C'est-à-dire que très souvent, je rencontre des gens, des petits-enfants, des enfants d'émigrés portugais qui me disent que leurs parents ne leur ont jamais raconté, ou leurs grands-parents ne leur ont jamais raconté. Parce qu'on ne leur a pas demandé. Et parce qu'on a du mal même à nous, quand j'explique que les Portugais venaient dans des conditions aussi déplorables que beaucoup d'Africains ou de Pakistanais, d'Indiens en France, il y a 40 ans, les gens ont du mal à parfois le croire, même s'ils ont vécu cette période-là. Certes, on en parlait dans les médias, mais d'imaginer que beaucoup de vos amis portugais ou des camarades dans l'île...
C'est du côté français, ça, hein?
Oui, du côté français, exactement, exactement. C'est-à-dire qu'on a du mal à concevoir que ces gens, parfois, ont vécu des voyages de 2-3 semaines à pied, qu'ils ont été dans des camions frigorifiques et qu'ils ont pris des risques pour venir en France et pour venir travailler en France. Et d'autre part, bon, ces Portugais, pour la plupart, c'est des gens qui appartiennent aux classes populaires, qui sont ouvriers, qui sont maçons, qui sont femmes de ménage, etc. Et qui donc ont une moindre propension à penser que leur vie est importante, et donc d'en parler. Et une autre raison qui, je pense, explique cela, c'est qu'on dit souvent que les enfants de Portugais sont bien intégrés, et je ne vais pas dire le contraire, mais très souvent, ils font des études assez courtes. C'est-à-dire qu'ils font, ils sont parfois, ils se dirigent soit eux-mêmes, soit ils sont plus ou moins conseillés par leurs enseignants à faire des filières courtes où ils trouvent un emploi ensuite dans le bâtiment, dans d'autres secteurs, etc. Et donc vous avez assez peu de fils de Portugais, il y en a, hein, mais qui font des études longues et notamment des études d'histoire ou de sociologie où ils pourraient par exemple travailler sur l'immigration portugaise. Et donc, à la différence notamment des enfants ou des petits-enfants de maghrébins ou d'italiens ou d'espagnols, dont un certain nombre font des études un peu plus longues, notamment en lettres ou en sciences humaines, il y a moins de portugais. Et donc, ce qui fait qu'il y a moins de personnes qui ont choisi ce sujet de thèse, de master, et qui font des travaux sur cela, en fait. Et donc, ça s'accumule, en fait, tous ces différents éléments, pour faire qu'il y a quand même des études. Il n'y en a pas non plus. Il n'y a pas un néant, il n'y a pas un vide, mais elles sont effectivement moindres. Et elles ont peut-être moins de retentissement que des recherches sur d'autres migrations.
Alors, Victor Pereira, pour aborder notre deuxième volet de cette rencontre, à savoir la révolution des œillets et son impact sur la société portugaise, peut-être qu'il faudrait dire un mot sur le fait que le Portugal était, comme on l'a déjà dit, et vous l'avez précisé tout à l'heure, que c'était un pays aussi colonial. Est-ce qu'on peut parler d'une émigration de Portugais dans les colonies? Quel type de colonisation? Par exemple, si on évoque, comme vous l'avez tout à l'heure dit, l'exemple algérien, l'Algérie est un pays de colonisation, donc d'une colonisation...
De peuplement.
De peuplement, voilà le mot que je cherchais. Donc, comment ça se passait dans les colonies, disons, africaines que le Portugal détenait depuis de longues dates?
Donc, Cap-Vert et l'Angola, principalement.
Et le Mozambique.
Mozambique et le Brésil.
Guinée-Bissau.
Exactement. Et Saint-Thomé-et-Prince.
Et Saint-Thomé. Voilà.
Et même un peu plus loin, dans l'océan Indien.
Oui. Et en fait, au 19e siècle et au début du 20e siècle, il y avait déjà une forte émigration portugaise, mais la plupart des Portugais partaient vers le Brésil, qui était le grand pays vers lequel se rendaient les paysans portugais du nord du pays. Quand le Brésil était devenu indépendant à partir de 1822. Et quand le Portugal a perdu le Brésil en 1822, ils ont essayé de créer de nouveaux Brésils. Et les nouveaux Brésils, c'était les territoires en Afrique. Et effectivement, les Portugais sont les premiers Européens à être arrivés en Afrique, à partir de 1415 et Ceuta. Mais en fait, les Portugais n'avaient, comme la plupart des Européens, à l'époque, que des points sur les côtes, en fait. C'est-à-dire que Luanda, notamment, depuis plusieurs siècles, mais les Portugais ne pouvaient pas rentrer trop dans les terres, parce qu'ils n'avaient pas les moyens, parce qu'ils n'avaient pas l'intérêt, parce que les royaumes africains avaient résisté jusqu'au XIXe siècle. Et c'est en fait qu'au XIXe siècle, après la perte de l'Empire du Brésil, que le Portugal essaye d'affermir ses colonies en Afrique. Et notamment, il va y avoir des guerres qu'on appelle de pacification, bon, c'est des guerres de l'invasion, en fait, qui vont durer jusqu'au début du XXe siècle, en fait. Même en Guinée-Bissau, c'était un territoire qui était très difficile à pacifier pour les Portugais, ça va être en 1936. Et donc, à la fois, il y a une volonté d'envahir ces territoires, de les contrôler, et aussi d'envoyer des colons, c'est-à-dire d'envoyer des blancs dans ces territoires-là. et la propagande des différents gouvernements, on va dire, aux Portugais n'allaient pas vers le Brésil et dépeindre le Brésil comme une sorte d'enfer où les gens sont exploités, transformés en esclaves, mais partaient dans nos colonies, dans notre empire, l'Angola et le Mozambique, qui sont les principales colonies portugaises. Or, tout au long du XIXe siècle et du XXe siècle, il y a très peu de Portugais qui vont en Angola et Mozambique, parce qu'en fait, les quelques personnes qui y vont très souvent meurent de maladies tropicales, et que les conditions de vie sont très difficiles, en fait. Et donc, les gens préfèrent partir au Brésil, où ils ont plus de chances de s'enrichir. Mais néanmoins, cette propagande pro-colonisation va continuer, sous les différents régimes, sous la monarchie constitutionnelle, sous la Première République et sous le salazarisme. Et en fait, le régime de Salazar, qui veut à tout prix conserver ses colonies, va notamment continuer sa propagande pour la colonisation. Et c'est notamment dans les années 50 et 60 qu'il y a un plus grand nombre de Portugais de métropole qui se rendent en Angola et au Mozambique.
Et au même moment, on assiste à un mouvement, disons, d'émancipation dans ces colonies du côté des Africains.
Exactement, c'est-à-dire au moment où les autres empires décolonisent, les Anglais, les Français, les Belges, eux, les Portugais, continuent à dire que le Portugal, c'est un pays pluricontinental et pluriracial, et incitent les Portugais à partir. Et alors après, ça, effectivement, ça augmente, parce que ça a été assez rare et assez limité jusqu'alors, mais en 74, il y a environ un peu plus de 500 000 Portugais blancs qui sont en Angola et au Mozambique. Et donc, certes, ça va être une partie congrue de la population totale, mais ça va faire quand même 500 000 personnes, c'est pas négligeable, qui ont émigré, surtout dans les années assez récentes. Et ces gens-là, pour la plupart, certains vont rester en 75, mais beaucoup vont revenir, alors revenir ou aller, parce que certains étaient déjà nés en Afrique, au Portugal en 75, ou certains vont immigrer vers l'Afrique du Sud, qui compte beaucoup de Portugais, ou d'autres vont partir vers le Brésil. Donc il va y avoir après une réémigration de ces populations-là. Mais donc c'est une immigration qui a toujours été difficile pour le Portugal, parce que les Portugais ont toujours immigré ailleurs, soit au Brésil, soit vers la France. Et donc, en dépit de la propagande, en dépit des appels à l'émigration vers les colonies, il était plus rentable et moins dangereux de se rendre soit en Europe, soit au Brésil.
Alors, les colonies ont joué un rôle important dans l'effondrement du régime de Caetano. Et donc, nous allons, si vous voulez bien, aborder maintenant ce qu'on appelle ou ce qu'on a appelé la révolution des œillets. Quelle est l'actualité de cette révolution après 40 ans? Qu'est-ce qu'elle a apporté à la société portugaise? Et qu'est-ce qu'on peut dire, puisque maintenant c'est devenu... ce fut un événement historique, mais non dénué d'un certain romantisme qui fait que on ne comprend pas de façon tout à fait objective tous les enjeux qui ont conduit à ce changement révolutionnaire qui a été conduit paradoxalement non pas par des civils mais par des militaires qui vont remettre le pouvoir après une transition assez mouvementée, donc le rendre au civil. Voilà un peu, j'ai rassemblé toutes les questions pour vous laisser parler à votre guise.
Et quelque part, qu'est-ce qui reste de la révolution des œillets, quoi ?
Voilà, on aime plus simplement.
Mais effectivement, la révolution des œillets, le 25 avril 1974, a beaucoup marqué à l'époque parce que c'était des militaires qui faisaient un coup d'État pour mettre fin à une dictature et ouvrir un processus pour à la fois la décolonisation et aussi la démocratisation. Et donc ça a beaucoup marqué, et surtout en 1974, on est un an après le Chili, quelques mois après le Chili, et on avait plutôt l'habitude en Occident de voir des militaires prendre le pouvoir pour mettre en place des dictatures militaires, et de droite et d'extrême droite, plutôt que pour faire une révolution, mettre fin un régime dictatorial. Et en plus, ces militaires, le MFA, le mouvement des forces armées, au cours de cette révolution mouvementée, comme vous l'avez évoqué, va être assez à gauche, très à gauche même. C'est-à-dire que certains vont présenter la révolution portugaise comme la mise en place d'un nouveau Cuba, avec des personnalités comme Otero Salazar Carvalho, qui va être celui qui va organiser le 25 avril et qui ensuite va être à la tête d'une police militaire qui ne va pas réprimer les mouvements sociaux, mais au contraire va les appuyer. Et tout au long de la révolution, qui dure grosso modo du 25 avril 1974 au 25 novembre 1975, au Portugal, va y avoir une révolution sociale. Ce ne va pas être juste un coup d'état militaire, un changement politique, mais non. Des ouvriers occupent leurs usines, revendiquent de meilleurs salaires, des droits, des paysans, notamment dans les régions du sud de la Latifundium, vont occuper les terres qu'ils travaillaient jusqu'alors pour des salaires de misère. Des gens qui vivent dans des bidonvilles vont occuper des logements, etc. Donc il y a un grand mouvement social qui va être appuyé par une partie des militaires, qui va appuyer ce mouvement-là. Et donc ça va durer de très longs, plusieurs mois. Il va y avoir des divisions assez fortes entre militaires, entre des militaires plutôt conservateurs, comme Spinola, qui va devenir le premier président de la République après le 25 juin 1974, et les militaires du MFA, qui sont plutôt à gauche, et ensuite des divisions entre le PS de Soares et le PCP de Cunhal, entre le parti socialiste qui défend plutôt une démocratie à l'occidentale, avec un pouvoir prééminent des civils, et le PCP qui défend plutôt un régime qui ne serait pas tout à fait une démocratie populaire, mais où les militaires, notamment les militaires les plus à gauche, auraient un poids très important, et notamment prenez le modèle sur le Pérou, où il y avait aussi un régime assez particulier. Et cette révolution des œillets va déboucher finalement sur une démocratie à l'occidentale, avec au fur et à mesure une domestication.
Pardon, il y avait aussi la pression des États-Unis.
Exactement.
Il ne faut pas oublier que l'OTAN a joué un rôle important dans l'orientation, enfin dans sa volonté d'orientation, oui, de la révolution portugaise.
Effectivement, les États-Unis, à l'époque, c'était à l'époque, il y avait d'abord Nixon, mais Nixon a dû démissionner à cause du Watergate, et puis Ford, mais surtout au département d'État, le ministre des Affaires étrangères américain, c'était Kissinger, et Kissinger, lui, était convaincu que le Portugal deviendrait un régime communiste, et que tout ça a débouché sur une sorte de guerre civile entre communistes d'un côté et anticommunistes de l'autre. Et Kissinger avait développé une théorie du vaccin. En fait, pour Kissinger, le Portugal était perdu, mais c'était pas un mal que le Portugal devienne, où les communistes prennent le pouvoir et qu'il y ait des troubles, parce qu'à la même époque, il y a d'autres enjeux. C'est qu'en France, il y a l'union de la gauche, entre le Parti communiste, le Parti socialiste et les radicaux de gauche. Et en Italie, il y a, c'est à l'époque, on parle du compromis historique entre la démocratie chrétienne et le Parti communiste italien. Et les États-Unis ne veulent en aucun cas que les communistes reviennent au gouvernement. Ils n'étaient plus au gouvernement depuis 1947, ni en Italie, ni en France. Et donc, pour Kissinger, si ça se passait mal au Portugal, ça me permettrait de limiter le poids du communisme en France et en Italie, en disant, regardez, ces communistes veulent prendre le pouvoir, ils limitent la démocratie, etc. etc. Mais donc Kissinger a essayé de jouer un peu la théorie du pire, mais en fait, le propre ambassadeur portugais américain au Portugal, Carlucci, qui est pourtant connu pour ses liens avec la CIA, va lui dire qu'il n'y aura pas de prise de pouvoir communiste et qu'il fallait appuyer les modérés, c'est-à-dire les socialistes. Et les Allemands aussi, pour d'autres raisons, vont aider les socialistes. Mais donc, effectivement, il y a cette crainte que les États-Unis, notamment, appuient un coup d'État militaire de droite. Et notamment, Spinola, à un moment, s'est exilé. Et il y avait éventuellement l'idée que Spinola essaie de faire un coup d'État pour mettre un frein à cette révolution qui était en cours. Et effectivement, le Portugal, on a du mal aussi à s'en rappeler, c'était un grand moment de débat idéologique, politique, en Occident, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Italie.
Et alors, m'a dit de poser la question tout à l'heure, de cette révolution portugaise, donc en fait, cette année, les 40 ans, qu'est-ce qui reste aujourd'hui ?
Bah, d'une part, il reste quand même le plus important, c'est que le Portugal est encore une démocratie. Et donc depuis 40 ans, le Portugal a une démocratie. Et en plus, un pays qui est rentré dans l'Union européenne à partir de 86, dans la CE. Et donc ça, il reste cela, ce qui est loin d'être négligeable. Mais notamment lors de ces commémorations du 40 ans, il y a au Portugal une forte désillusion. Et beaucoup de Portugais sont désabusés parce que certaines promesses du 25 avril semble pas avoir été tenu. C'est-à-dire que, comme vous le savez, le Portugal a connu une forte crise économique, que le Portugal a dû demander un énorme emprunt, et les conditions de cet emprunt ont été notamment la présence de la Troïka, donc de la BCE, du FMI, de l'Union européenne, qui a imposé des réformes au gouvernement portugais, mais même le propre gouvernement portugais, qui est un gouvernement de droite, a été plus loin que les réformes proposées par la Troïka, et a imposé une très lourde cure d'austérité au Portugal, et beaucoup de Portugais se sentent désabusés, parce que, d'une part, le Portugal s'est appauvri ces dernières années, les inégalités qui sont importantes, mais sont encore plus creusées, et le Portugal a connu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une très forte émigration. Alors que on pensait que l'immigration au Portugal appartenait au passé, appartenait au passé antidémocratique, au passé dictatorial, et certains mots du passé qu'on pensait complètement disparus avec la démocratie reviennent. La pauvreté de masse, un État en quasi-faillite, un État où les gens doivent émigrer pour trouver un emploi et pour trouver des conditions de vie dignes. C'est pour ça qu'il y a une forte désillusion au Portugal.
Et quid de l'espérance révolutionnaire à la portugaise aussi?
Oui, parce que voilà, il y a quelque chose en lisant ces derniers temps des articles sur ce qui se passe au Portugal. Je tombais sur un article d'un militant portugais qui expliquait que le peuple portugais, alors c'est un peu essentialiste, mais était au fond un peuple assez fataliste, résigné, et que devant l'adversité, la dictature, devant aujourd'hui la Troïka et la crise économique et la puissance du capitalisme, au fond, baissait un peu les bras et subissait sans pouvoir réagir. Alors, ce qui lui a donné tort, c'est que le surlendemain, il y avait une grève générale avec des centaines de milliers de personnes dans les rues. Donc, comme quoi, on n'est jamais trop sûr. Mais quand même, est-ce que cette idée-là est fondée, notamment au regard des réactions des migrants en France et de ce qui se passe actuellement? Ou est-ce que le peuple portugais peut tout à fait avoir un sursaut révolutionnaire vu les circonstances actuelles qui pourraient y prêter, quoi?
Effectivement, une des illusions, et notamment des illusions des gens plutôt à gauche, voire à l'extrême gauche, c'est de se dire, mais comment ce peuple, cette population qui a fait une révolution, non pas le 25 avril en tant que tel, mais ce qui a suivi par la suite, avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des occupations d'usines, des mouvements permanents, on considère souvent la révolution des usines comme une sorte de grand mai 68 et de grand 36. À la fois un côté de libération de la parole, libération des mœurs, parce qu'elles étaient fortement contrôlées sous la dictature, et à la fois un grand mouvement gréviste, de revendication et tout. Et comment ce pays en révolution, cette population en révolution, à partir de 76, est revenu à ce que vous disiez tout à l'heure d'essentialisme, mais ce que certains disent, effectivement, une sorte d'apathie, de manque de culture civique, de manque de revendication.
Qu'on a aussi en France.
Comment ?
Qu'on a aussi en France.
Oui, oui, voilà. Et comment... face à la Troïka, face au gouvernement de droite qui a coupé des droits sociaux, qui a coupé dans les pensions, qui privatise des choses, mais qui d'un autre côté dit qu'il n'y a pas d'argent pour les droits sociaux, mais qui rachète des banques qui sont tombées en faillite à cause de la corruption. Comment, à la différence des Espagnols avec le mouvement des indignés, ou à la différence de la Grèce, il y a très peu de mouvements sociaux. Alors, il y a, comme vous l'avez dit, il y a eu des grèves générales, il y a eu des grands mouvements de grève il y a quelques années avec des jeunes, mais effectivement, ça n'a pas vraiment mis en cause le gouvernement. Et même aux élections, alors il y a des choses bien au Portugal quand même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement d'extrême droite, à la différence de la Grèce. Il n'y a pas de parti, il y a des partis fascistes ou très nostalgiques du salazarisme, mais ils ont quasiment aucune expression dans les urnes. Mais même, il y a différents partis de gauche, l'extrême gauche, qui ont été créés soit récemment, soit un peu plus avant, c'est-à-dire le PCP, le Bloc des Gauches, et maintenant il y a deux, trois autres partis qui ont été créés. Mais ces partis-là n'ont pas connu une croissance notable avec la crise. C'est-à-dire que autant les deux grands partis que tout le monde critique, qui sont le PS et le PSD, on les critique parce qu'on dit que c'est le bloc central, qu'ils sont au gouvernement depuis 40 ans, qu'ils ont toujours les mêmes solutions, mais qu'ils n'arrivent pas à résoudre des problèmes. Mais d'un autre côté, ce sont eux toujours qui obtiennent le plus grand nombre de votes.
Oui, c'est l'alternance. Ce qui est aussi très grave. C'est l'alternance.
Oui, entre les deux partis. Par contre, ce qui est plus grave, c'est que le Portugal, depuis plusieurs années, connaît une très forte abstention. L'abstention atteint souvent les 40%.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, cette crise au Portugal, elle ne bénéficie pas pour autant à des partis qui proposent un autre changement.
C'est-à-dire que les partis qui proposent une autre politique, plus ou moins radicale, le PCP stabilise ses votes, le bloc de gauche n'a pas connu une grande croissance, et les autres partis, on va voir ce que ça va donner, mais je ne pense pas qu'ils vont. Et donc, en fait, effectivement, il y a une sorte de fatalisme, c'est-à-dire que les Portugais, très souvent face à des problèmes collectifs, recherchent des solutions individuelles, qui vont être par exemple l'immigration, ou notamment ce qui est très important en Portugal, c'est la famille, c'est-à-dire qu'on voit souvent face à la crise, les gens très souvent vont revivre, les plus jeunes vont revivre chez leurs parents, ou les grands-parents sont aidés par leurs enfants, etc. Il y a des très fortes solidarités familiales qui restent, ce qu'on appelle un peu au Portugal la société-providence, c'est-à-dire que les gens cèdent dans le cadre familial, mais ensuite revendiquent assez peu un changement de situation ou n'appuient pas vraiment les partis qui revendiquent une alternance ou un changement profond.
Paulo Dias, pour conclure.
Que vous inspire cette année, là, à l'occasion du 40e anniversaire de la Révolution? Que vous inspire le refus du gouvernement portugais de laisser s'exprimer ceux qui ont participé à la révolution, justement, les Capitaines d'Abril?
Effectivement, il y a eu une sorte de désaccord entre la présidente de l'Assemblée nationale et les membres, les Capitaines d'Abril, les anciens Capitaines d'Abril, qui n'ont donc pas participé à l'hommage officiel à l'Assemblée nationale. Ils ont préféré ne pas y participer parce qu'ils sont contre la politique notamment d'austérité. Ils ont eu des désaccords notamment sur la retraite des militaires, etc. Mais néanmoins, les militaires, la session du 25 avril a été très présente et a organisé plusieurs événements qui, à la limite, ont été plus concourus et plus suivis que l'hommage officiel au Parlement, en fait.
Justement, c'est la question, la dernière question que je voulais vous poser pour terminer cette rencontre. Nous vous remercions au passage pour la qualité de votre contribution. Donc, que sont devenus les principaux protagonistes de la révolution des œillets, pour terminer?
Certains d'entre eux, ils ont eu des vies assez différentes. Donc aucun n'est devenu ensuite... il y en a un qui est devenu Hensch, qui est devenu président de la République entre 1976 et 1986. Mais les principaux, et notamment les plus radicaux, oui. Othello, celui qui a organisé Othello ensuite, a été arrêté dans les années 80 parce qu'il avait été proche d'un groupe d'extrême-gauche qui avait fait quelques actions de terrorisme, un peu comme l'Action Directe en France, donc il a été arrêté quelques années. Et ensuite, Salgueiro Maia, qui est un des plus connus, parce que c'est celui qui a obtenu la rendition de Marcelo Caetano, et lui est décédé en 92, dans un quasi-anonymat, et d'autres personnalités comme Vasco Lins, par exemple, c'est lui qui est président de l'action du 25 avril, et donc fait vivre la flamme de ces Capitaines d'Avril, mais aucun d'entre eux n'a connu une carrière politique. Et parfois, ce qui marque beaucoup au Portugal, c'est que notamment des gens comme Salgueiro Maia sont morts dans un certain anonymat, alors que dans les années 90, des anciens agents de la PID ont obtenu des retraites et ont obtenu des décorations pour leur action, au bénéfice du Portugal, c'est-à-dire dans la participation à la guerre coloniale. Et ça a beaucoup choqué au Portugal, c'est-à-dire comment on peut décorer des gens qui ont appartenu à la PID et laisser des gens comme Salgueiro Maia dans l'anonymat et qu'on n'en parle pas plus, même si là, cette année, on en a parlé un peu quand même.
Et juste pour conclure, en une petite phrase, si c'est possible, quels sont, selon vous, les motifs d'espérance aujourd'hui? Vous savez qu'il y a des signes qui montrent un sursaut positif au Portugal, au-delà de simplement des solidarités familiales qui sont très importantes, mais où c'est qu'on aurait des petites étincelles?
Là, je risque d'être assez pessimiste, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Alors, les Portugais, face on veut pas le dire.
C'est souvent par les migrations, en fait. Ça montre une vitalité, une capacité d'adaptation, parce qu'émigrer, souvent, il y a des gens de 30, 40 ans qui doivent émigrer. Mais sinon, au Portugal en tant que tel, effectivement, il y a des nouveaux partis de gauche qui sont en train d'être créés, mais qui, pour la plupart, sont assez coupés des classes populaires. C'est souvent des intellectuels, des universitaires qui sont dans ces partis-là. Et je ne suis pas sûr qu'ils mobilisent beaucoup la population. Donc je risque de terminer sur une note plutôt pessimiste.
Je rappellerai que l'an dernier, il y a eu une mobilisation de pas loin de 10% de la population. Il y a eu un million de Portugais dans la rue.
Donc, tout n'est pas perdu, en tout cas.
Pas perdu.
Eh ben merci, Victor Pereira, pour cet éclairage vraiment très complet sur l'immigration portugaise et la révolution des œillets. Merci, Paulo Diaz, pour votre participation.
Merci à vous.
On s'écoute tout de suite encore une chanson de la révolution des œillets. Bon après-midi sur Canal Sud.
Cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém.